Je suis particulièrement honorée d'introduire le vif du sujet sur l'ensemble des sessions qui vont se dérouler au cours de ces deux journées et demie. Et d'une certaine manière, Philomena Essed nous a fourni une grille de lecture particulièrement pertinente, je dirais même particulièrement saisissante, d'une situation que nous ne connaissons que trop bien. Il a été rappelé dans l'introduction que très souvent, d'ailleurs, cette situation n'est pas suffisamment décryptée au niveau de l'université. Alors donc, c'était une introduction tout à fait salutaire qui nous a été offerte. Et nous allons complètement nous déplacer dans un autre univers, toujours scolaire, mais celui-ci porte sur les élèves et leur expérience de la discrimination et du racisme ordinaire. Donc une première déclinaison, en quelque sorte, des questions qui vont être abordées et qui vont être approfondies et décrites au cours de ce colloque. Et donc je vais tout de suite donner la parole à Céline Venia. C'est le vôtre, hein.
Ah bon, d'accord.
Bon, bah, alors on peut inverser. Ça vous dérange pas? Je pense que pour des raisons techniques, il ne faut pas brusquer ces machines. Donc une fois qu'elles sont en état de marche, il vaut mieux les suivre. Voilà, ça fait partie des formes d'aliénation que nous subissons dans le monde. Nous sommes aliénés aux machines et donc quand elles décident de marcher, nous les suivons. Donc je vous donne la parole, Iman Ben Zahdar, du primaire au secondaire, qui discrimine aujourd'hui à l'école, point d'interrogation. Analyse des expériences et vécus de la discrimination d'élèves issus de l'immigration maghrébine. Vous êtes doctorante en sociologie à l'université Nice Sophia Antipolis et au sein du laboratoire URMIS. Nous vous écoutons. Alors, je ne sais pas quel temps on vous a imparti. 20 minutes ?
Non, un quart d'heure.
Un quart d'heure, voilà. Vous êtes extrêmement disciplinée. Donc,
normalement, oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Je souhaitais tout d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque pour le travail qu'ils ont effectué. Et remercier par ailleurs donc toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour y assister. Alors, je ne vais pas revenir sur qui je suis, puisque j'ai été très bien présentée. Normalement, si vous avez des questions, nous pourrons échanger à ce sujet un petit peu plus tard. Simplement rappeler que la communication que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui s'intitule effectivement « Du primaire au secondaire, qui discrimine à l'école aujourd'hui », s'inscrit donc dans la continuité de mes études entreprises donc lors de mon mémoire de Master 2, qui portait déjà sur le champ école et immigration. Et donc je vais vous présenter les résultats de l'analyse des expériences vécues de la discrimination d'élèves issus de l'immigration maghrébine. Alors il s'agit d'un compte-rendu d'une recherche qui a été menée dans le cadre de mon travail doctoral, dépasse le simple traitement de la question de la discrimination, puisque j'étudie également le décrochage scolaire. Mais pour ce travail, ce sera uniquement discrimination. Donc j'ai deux grandes parties, donc une phase dite exploratoire, durant laquelle j'ai eu l'occasion d'interroger 16 collégiens que j'ai rencontrés donc, dans un centre social de la ville de Nice, et dans lequel en fait j'intervenais en tant qu'accompagnatrice à la scolarité. Donc c'est comme ça que j'ai pu les rencontrer. Donc ces 16 collégiens sont issus de toute immigration confondue. Et ensuite donc, j'ai une phase confirmatoire qui est arrivée donc, par la suite, et durant laquelle j'ai pu rencontrer et interroger 60 écoliers. Sur ces 60 écoliers, j'en ai 30 qui sont issus de l'immigration maghrébine et 30 qui font partie de la population majoritaire. Donc j'ai un groupe contrôle et un groupe expérimental. Je reviendrai un petit peu dessus donc, tout au long de ce travail, hein, et que j'ai rencontré donc, dans 4 établissements du département du Var, donc avec l'autorisation bien évidemment de monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale qui est en charge de la circonscription dans laquelle je suis intervenue, et donc des entretiens directifs et qui ont été menés sur une période de 3 mois, donc durant l'année 2017. Donc ce travail a été bien évidemment animé par une pluralité de questions que je vous propose de découvrir ensemble et auxquelles je vais tenter de répondre, en tout cas apporter des premiers éléments de réponse donc, tout au long de cette communication. Donc quelles expériences ont les descendants d'immigrés d'origine maghrébine, donc de la discrimination dans l'espace scolaire? De quelle manière la vivent-ils? Ou encore quel sens attribuent-ils à la notion de discrimination? Et pour finir, à partir de quels éléments la détermine-t-il la discrimination? Donc mon échantillon d'élèves, comme je vous l'ai dit, constitué de 76 individus, donc 80% d'écoliers et 20% de collégiens. Et donc 40% d'élèves, encore une fois, de la population majoritaire ou sans ascendance migratoire, et les 60% restants répartis entre les élèves issus de l'immigration algérienne, marocaine ou encore tunisienne. Donc la parité filles-garçons qui a été respectée au maximum, donc 49% de filles, 51% de garçons. Un échantillon qui a été constitué de façon totalement aléatoire, je tiens à le préciser quand même, et on va dire une moyenne d'âge qui se situe entre 8 et 11 ans pour l'élémentaire et 11 et 14 ans pour le secondaire, en tout cas pour les collégiens que j'ai rencontrés. Alors, l'état des lieux que j'ai dressé se veut plutôt positif et rassurant dans un premier temps. Alors, il faut savoir que les questions qui ont été posées à ces élèves découlent de la littérature relative au climat scolaire. Donc là, je vous renverrai vers les travaux du professeur Éric de Barbieux, notamment, qui a mis en avant 5 dimensions qui composent donc le climat scolaire, ou encore l'expérience subjective, finalement, de la vie scolaire à travers les jugements qu'ont les parents, les élèves, ainsi que les personnels enseignants et non enseignants. Donc on a le relationnel, les apprentissages, le sentiment d'appartenance. On a aussi tout ce qui concerne le bâti, donc l'environnement physique, et enfin le sentiment de sécurité. Et donc c'est à partir de ces 5 éléments que j'ai construit mes guides d'entretien, qui d'ailleurs étaient composés de 42 questions pour les élèves du secondaire et 103 questions pour les élèves du primaire. Alors, on ne va peut-être pas détailler tous les éléments. En tout cas, il y en a 3 principaux qui sont ressortis en lien avec la discrimination. Donc, on peut noter qu'on a 93% des écoliers et 88% des collégiens qui se sentent heureux dans leur établissement et qui sont contents d'aller à l'école et au collège le matin. Alors, ces chiffres sont relatifs à la population avec ascendance migratoire. On a des chiffres sensiblement similaires quand on compare avec les élèves sans ascendance migratoire, en tout cas ceux qui sont de la population majoritaire, qui sont légèrement supérieurs, mais d'un ou deux points finalement. On a également 90% des écoliers qui se sentent en sécurité dans leur établissement, au sein de la classe, donc qui n'ont pas peur de venir à l'école le matin, qui n'ont pas peur d'être violentés, agressés ou traités de façon inégale par rapport à d'autres camarades. Et enfin, on a quasiment un élève sur 10 qui juge être traité de la même façon que ses pairs, donc par les enseignants. La question portait exactement sur tout ce qui concerne la notation. Est-ce que quand tu as une bonne note, l'enseignant t'encourage, te félicite, et est-ce que quand tu as une mauvaise note, il réagit de la même façon ou pas que pour les autres camarades? Également sur les difficultés que les élèves peuvent rencontrer lors d'une leçon ou lors d'un exercice. Comment réagit l'enseignant à ton égard quand tu le sollicites? Est-ce qu'il y a du soutien ou non? Ce qui est important aussi de soulever par rapport à la discrimination, c'est qu'on a bien souvent 3 protagonistes qui entrent en jeu. Alors 2 généralement, mais le troisième, on a tendance à l'oublier. On a la victime, donc, qui va subir la discrimination. On va avoir l'auteur également, qui traite justement la victime de façon inégale, donc par rapport à une tierce personne. Et enfin, on a le témoin qu'on a tendance donc à oublier et qui a un rôle clé finalement dans cette histoire, a également une position délicate. Dois-je ou non dénoncer ce que j'ai vu ou entendu? Alors cette pyramide, elle regroupe uniquement les élèves issus de l'immigration maghrébine, donc en contexte de discrimination, simplement parce que les élèves que j'ai interrogés, qui sont issus finalement de la population majoritaire, ne se sont pas déclarés comme étant victimes ou auteurs, mais davantage comme étant témoins, donc pour 2 élèves sur 3. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils n'apparaissent pas clairement dans la pyramide. Alors ce que l'on peut retenir, c'est qu'on a effectivement 65% d'élèves issus de l'immigration maghrébine qui se sont déclarés victimes, au moins une fois dans l'année scolaire, un peu plus de 5% auteurs, et un élève sur 2 a été témoin d'actes ou propos discriminatoires. Ce qu'on relève aussi, et c'est ce qui apparaît donc dans l'encadré, c'est qu'on a un élève sur 3, donc avec ascendance migratoire, qui a endossé 2 casquettes, donc celle de victime et celle de témoin, pas simultanément, mais en tout cas les 2 au cours de l'année, et donc en contexte de discrimination, dans l'espace scolaire. Alors là, je vous propose un schéma qui reprend différents éléments de mon questionnaire, enfin de mon guide d'entretien directif, avec une comparaison qui est faite entre le primaire et le secondaire, et qui laisse apparaître des différences entre les deux niveaux. Alors si on prend par exemple le primaire, à la question qui discrimine, les élèves ont répondu qu'il s'agissait systématiquement et uniquement des élèves. Donc pas d'enseignants a priori qui discrimineraient ces élèves-là, donc issus de l'immigration maghrébine. Ce sont des élèves qui, pour certains, vont être complètement indifférents à ces actes ou propos discriminatoires. On le verra un petit peu plus loin. Pourquoi ? Alors, je vous donne l'élément de réponse et on le développera plus loin. C'est notamment parce qu'ils n'arrivent pas à la reconnaître, cette discrimination. Ils ont du mal à la qualifier et à mettre des mots dessus. Et on a ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont discriminés ou pourquoi est-ce qu'un élève l'est également. Donc à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce qu'on le traite différemment, pourquoi est-ce qu'on me traite différemment, alors que finalement, on est tous pareils. Ce qui engendre très peu de dialogue finalement, que ce soit du côté des victimes, des auteurs ou encore des témoins. Alors pour les témoins, c'est un petit peu plus problématique qu'ils ne s'expriment pas sur la question, puisque ça signifie implicitement qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe, en tout cas avec ces actes discriminatoires. Ce qui fait que les élèves issus de l'immigration sont bien souvent, vivent une double discrimination, sont doublement victimes, et par l'auteur et par le témoin. Mais alors à la question de savoir doit-on dénoncer ça, tous les élèves ont répondu par l'affirmatif, en disant « oui, il faut aller le dire ». Et en priorité à qui ? À l'enseignant. Alors pourquoi l'enseignant ? On a quand même posé la question, et là on nous a répondu qu'étant donné que l'acte se produisait dans l'enceinte de l'école, il paraissait nécessaire, voire même obligatoire, naturel, de se tourner vers un adulte de l'établissement. Et que cela ne regardait pas forcément les parents dans un premier temps. En tout cas, personne n'a parlé des parents, voire même des amis. On a parlé des enseignants directement. Et donc en face, quand on bascule du primaire vers le secondaire, c'est un moment qui est d'ailleurs souvent qualifié de névralgique, hein, on voit tous les bouleversements qui s'opèrent à ce moment-là, c'est un moment clé hein, pour les élèves. Donc quand on leur pose les mêmes questions, on a quand même un élève sur trois qui déclare avoir été discriminé ou avoir été témoin de discrimination par les enseignants. Et encore une fois, là, avec deux cas de figure bien différents, donc deux réactions différentes, alors il y a ceux qui rigolent face à cela, qui vont vous dire « mais non, c'est absolument pas sérieux », et je reprends leur expression « ce n'est pas possible qu'il y ait une discrimination puisqu'on est dans un collège international. Si vous regardez bien, madame, on vient tous d'un pays différent, personne n'est français finalement. » Alors c'est... voilà, on en rit entre nous, on discrimine, mais c'est simplement parce qu'on est camarades, on se connaît tous, donc pas de souci. Et vous avez ceux qui, en revanche, considèrent cela comme une injustice, des individus blessés et qui sont vraiment en colère, donc en colère contre les personnes qui les ont discriminés et en colère aussi contre l'institution qui ne fait rien pour les protéger finalement. Et alors là, on a davantage de réactions, on a plus d'élèves qui vont dénoncer cela, mais alors c'est pareil, on leur pose la question « à qui vas-tu en parler en priorité ?» Et là, réponse totalement différente, les parents et les élèves. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence avec ceux du primaire ? Alors, ceux du secondaire vous expliquent que, oui, ils ont été discriminés dans la sphère scolaire, mais avant de discriminer un élève, on discrimine un individu. Donc, ça relève de l'intimité, c'est pour ça qu'on ne va pas en parler forcément à l'enseignant tout de suite. On va d'abord en parler aux parents, puis à son cercle d'amis. Et l'autre raison également, c'est qu'un élève qui a été discriminé par un enseignant, bah forcément, ne va pas se tourner vers l'équipe, pour en parler, de peur justement de ne pas être protégé ou qu'il n'y ait pas de réaction ou qu'on ne le croit pas. Alors j'en arrive au motif de la discrimination, que j'ai intitulé donc de la différenciation à la revendication. Donc les motifs qui apparaissent sont ceux que j'ai notés, que l'élève soit victime ou témoin. Concernant les auteurs, je n'ai pas eu de réponse hein, sur ces motifs-là. Alors, ce que l'on peut noter, c'est déjà dans un premier temps qu'il n'y a pas d'acte de violence physique, il n'y a que des propos, enfin, ce qui est déjà énorme en soi, et que ces propos discriminatoires interviennent surtout sur les temps récréatifs, à l'abri des regards, hein, notamment des adultes, donc plutôt sous le préau ou dans les toilettes. Et le temps méridien, donc qui correspond à l'accueil du matin quand il existe, ainsi que la pause de midi, la pause déjeuner et tous les temps périscolaires. Alors quand on regarde le tableau, on se rend compte que 70% des motifs, hein, de la discrimination trouvent leur fondement sur la race ou encore l'origine. Et que la moitié des collégiens, et donc les deux tiers des écoliers interrogés, disent avoir subi au minimum deux formes de discrimination, en tout cas deux discriminations relatives à deux critères bien différents. Et alors deux points qui sont ressortis quand même de façon très, très forte, très présente. Donc c'est le point 3 et le point numéro 4. On a tout d'abord une double, voire une surstigmatisation donc de cette population. Donc on a le marqueur religieux qui va venir redoubler le marqueur racial. Donc là, je l'explique par le point numéro 3. Les élèves qui vont être perçus comme étant arabes déclarent être également considérés comme étant de confession musulmane supposée, donc pas du tout avérée, hein, supposée, et vont être de fait assimilés à des terroristes. Alors on voit que ça arrive de plus en plus souvent, donc notamment par rapport aux attentats qu'il y a eu, notamment donc par rapport à Nice, hein, dans le sud, mais également à Paris. Les élèves le décrivent très très bien. On m'a injurié de terroriste par rapport à ce qui s'est passé, ce que l'on voit à la télévision, etc. Et donc on a également le quatrième point, qui est une forme d'auto-exclusion de la part des élèves. Alors, on en a certains qui vont vous dire, oui, la discrimination est un processus, hein, qui va viser à opérer un traitement différencié, hein, et qui va trouver donc son fondement sur différents critères, l'orientation sexuelle, religieuse, etc., mais qui ne va pas produire d'effets négatifs. Et alors ces élèves-là utilisent la discrimination pour se revendiquer comme faisant partie d'un groupe, donc d'un groupe bien évidemment, encore une fois, dont les caractéristiques vont se baser sur la religion, sur la race, sur l'origine, et qui en ont besoin pour qu'on puisse les reconnaître comme existants dans la sphère scolaire. Donc ils vont vous dire, oui, je suis arabe, oui, je suis portugais, mais en soi, ce n'est pas négatif. Et on arrive à s'identifier nous-mêmes tels quels et à identifier les autres aussi de cette façon. Mais donc la conséquence, c'est effectivement l'auto-exclusion donc, de l'espace scolaire et par extension de la société également. Donc ils reproduisent à petite échelle ce qui se passe déjà sur une plus grande échelle. J'en arrive à mon dernier point. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait des élèves qui étaient totalement indifférents à cette question de la discrimination et qui avaient du mal à la reconnaître. Donc ça, c'est une difficulté qui est avérée, qui est ressortie en tout cas de manière très forte lors des entretiens. On a quand même un élève sur deux qui a affirmé à la question as-tu le sentiment d'avoir été traité différemment de tes camarades de classe ? Donc on a un élève sur deux qui va vous répondre par la négative. Et quand on affine les questions, qu'on rentre dans le détail à dire est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques sur ton physique, sur tes origines ? Et bien là, on a deux tiers des élèves qui vous répondent oui. Et on se rend compte qu'en fait, ils ont été discriminés, mais n'en ont pas conscience. Et donc, à contrario, on a les élèves qui vont répondre à cette même question par la négative, donc vous dire par la positive, pardon, qui vont vous dire « oui, j'ai été traité différemment ». Et pareil, quand on affine les questions, on rentre dans le détail, bah, finalement, il n'y a aucune correspondance avec une expérience de discrimination. Et alors, c'est posé la question de savoir, finalement, sur quels critères ces élèves reconnaissent une situation discriminatoire ou non. Et donc là, on a trois éléments, trois facteurs qui sont ressortis. Donc en premier lieu, l'école, avec toutes les interactions avec les élèves et les enseignants. Donc les élèves plutôt dans la cour de récréation et les enseignants au travers notamment de l'enseignement moral et civique. On va parler donc de cette question de discrimination sans la nommer, mais les élèves arrivent à prendre certains éléments pour pouvoir construire leur propre vision de ce qu'est la discrimination. Ensuite arrive la famille. Alors là, on a les élèves, soit qui en discutent ouvertement avec leurs parents, et uniquement avec les parents, pas les frères et sœurs, ou soit les élèves qui ont entendu leurs parents en parler. Et ces élèves, en général, ont la même vision de la discrimination que leurs parents. Et donc certains vont vous dire, oui, effectivement, cet élève est noir, cet élève est arabe, il est différent de moi, parce que j'ai entendu mes parents le dire. Et alors le troisième élément qui entre en jeu dans cette vision subjective de la discrimination, ce sont les médias. Alors on a une minorité d'élèves hein, qui nous ont parlé de ce point-là, mais qui existent tout de même, notamment à travers la télévision. Et alors là, on m'a systématiquement parlé des discours politiques et notamment de Marine Le Pen, et ceux qui m'ont parlé des réseaux sociaux. Et alors on voit que selon le fait que l'élève soit, ait une ascendance ou non migratoire, le traitement de l'information est complètement différent. Les élèves sans ascendance migratoire arrivent mieux à décrypter l'information qui est transmise et à se l'approprier. Chose que n'arrivent pas forcément à faire les élèves issus de l'immigration maghrébine. Donc la présence de l'un de ces facteurs ou des trois facteurs va générer donc ce sentiment de discrimination ou non et déterminer si oui ou non la situation revêt un caractère discriminatoire ou non. J'en arrive au dernier point, donc la conclusion avec quelques pistes de réflexion. Donc pour dire que les éléments qui ont été exposés mènent à souligner donc trois points. Donc la nécessité d'instaurer un dialogue entre les élèves, parce que l'on voit parfois qu'il s'agit simplement d'un problème hein, de communication entre eux, et qu'on pourrait résoudre les conflits par divers moyens, notamment donc en discutant. Donc je le proposerai par la suite dans les pistes à explorer. L'intérêt de développer les relations entre les élèves et les enseignants, qui restent tout de même des référents majeurs pour les élèves, notamment ceux du primaire. Et l'importance également de sensibiliser donc les élèves aux nouvelles problématiques émergentes. Donc là, je parle bien évidemment, je fais référence à la discrimination, mais pas que, également à la violence, au harcèlement ou encore au décrochage scolaire. Et alors, quelques pistes à explorer. Pourquoi pas mettre en place des groupes de parole entre élèves? Alors, on l'a expérimenté sur Nice, notamment au travers du projet ADER, qui est porté donc par la professeure Catherine Blaya. ADER signifiant Action contre le décrochage et le harcèlement, éducation et régulation par l'environnement. Donc il s'agit en fait de regrouper 8 à 10 élèves une fois par mois et de discuter avec eux de situations pouvant poser problème dans la sphère scolaire. L'idée étant de pouvoir générer des suggestions d'amélioration du climat scolaire et de les proposer ensuite lors du CESC, donc le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et alors l'idée, c'est que le chef d'établissement, les CPE, donc tout dépend du niveau scolaire, hein, puissent valider, mettre en pratique, rendre effective en fait une ou deux propositions émises par les élèves. On a également donc la possibilité de faire intervenir une troupe de théâtre forum, donc pareil qui a été expérimentée hein, sur Nice, toujours dans le cadre du projet ADER. Et là, il s'agira en fait d'un théâtre participatif, si vous voulez. Donc l'idée serait qu'on ait des comédiens qui viennent jouer une situation qui pose problème, encore une fois, dans l'espace scolaire, avec une conclusion en général qui est catastrophique. Et l'idée, c'est de jouer cette pièce une seconde fois, et de demander aux élèves d'intervenir sur tous les moments qui pensent être problématiques et finalement avoir une conclusion plus positive. Voilà, donc les faire participer en tant que futurs citoyens, élèves et futurs citoyens bien évidemment, parce qu'on retrouve ces mêmes problématiques dans la société à plus grande échelle. Et enfin, et c'est le point qui me paraît quand même assez important, c'est d'accompagner les enseignants dans leur formation. Alors j'interviens auprès des PFSE à l'ESPE, donc le premier degré, et on se rend compte que les enseignants sont en grande souffrance et sont très demandeurs en fait. Hein, ils aimeraient qu'on change leur formation, ou en tout cas qu'on enrichisse le contenu par des cours portant exclusivement sur la question de la discrimination, de la violence à l'école, du décrochage scolaire. Mais pas que. L'idée, ce serait aussi de leur donner les outils pour qu'ils puissent mettre ou rendre effectives ces connaissances d'un point de vue pratique. Donc comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique ? Donc beaucoup de difficultés à le faire, donc les accompagner dans ce chemin-là en tout cas. Et le tout dernier point concerne l'éducation morale et civique. Donc je me suis rendue sur le site de l'éducation nationale et j'ai trouvé le bulletin officiel donc, qui date de juillet 2018 et qui présente le contenu et les finalités donc, de cet enseignement donc pour les cycles 2, 3 et 4. Et je me suis rendue compte que pour les cycles 2 et 3, à aucun moment on ne parlait de discrimination. Le mot n'apparaît absolument pas. Il n'apparaît que dans le cycle 4. Alors dans le cycle 2 et 3, on en parle, mais plutôt on va parler de tolérance, de respect envers les autres, mais à aucun moment le mot n'apparaît. Et je pense que ce qui est important de dire et de rappeler, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot de discrimination, qu'il est encore assez tabou, en tout cas dans le premier degré, et que l'idée, effectivement, ce serait donc de permettre aux enseignants d'en parler de façon beaucoup plus aisée, et ce qui permettrait de rendre la lutte finalement contre la discrimination et les banalisations de ces actes plus utile et efficace. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Céline Vénia. Vous êtes doctorante en sociologie à l'EHESS au CEMS, Centre d'études des mouvements sociaux. De temps en temps, on peut peut-être expliquer les acronymes. Et le titre de votre intervention, je n'ai pas discuté avec le HESS, mais voilà, l'école des hautes études en sciences sociales aussi.
Oui, parce que même pour les étrangers, c'est ben, du chômage
oui, culturel. C'est du... Enfin, tout le monde n'est pas censé connaître le monde des acronymes dans lequel nous baignons en permanence. Donc,
merci.
Je vous en prie. Et donc le titre de votre intervention est « Traitement discriminatoire au guichet des inscriptions scolaires et racisme ordinaire à l'école, l'expérience des enfants roms vivant en bidonville ». Merci.
Merci. Ben alors, merci à vous, merci pour votre présence et puis merci aux organisateurs, organisatrices du colloque. Voilà, on a un programme très, très dense qui promet de belles discussions. Alors donc moi, comme l'a dit Nassira, je suis donc doctorante en sociologie à l'EHESS et j'ai mené une enquête ethnographique sur les pratiques d'habitat, l'expérience de l'accès au droit et les mobilisations de familles roumaines qui vivent dans les bidonvilles en région parisienne. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement en fait de leur expérience de l'accès à la scolarisation dans un premier temps et puis après de l'expérience des enfants à l'école. Donc je partirai en fait de mes observations au guichet des inscriptions scolaires et lors des réunions avec les responsables de l'enseignement pour décrire en fait le processus discriminatoire au moment de l'inscription scolaire dans un premier temps. Et ensuite je me concentrerai sur, à partir d'observations collectées pendant mon activité de soutien scolaire dans les bidonvilles, je me concentrerai sur les témoignages de racisme ordinaire en fait vécu à l'école, donc là moi c'est l'école primaire, par les enfants roms dans leur relation avec les autres élèves. Donc j'ai pas fait de PowerPoint, mais voilà, je vais vous annoncer les parties, vous inquiétez pas, je vais essayer de pas vous perdre. Donc première partie, en fait hein, le titre de mon intervention correspond aux deux grandes parties que je vais développer. Donc première partie, décrire le traitement discriminatoire des enfants roms, enfin, et puis de leur famille surtout en fait là, au guichet des inscriptions scolaires. Donc là, cette partie, elle porte sur mon activité de bénévole dans une association au sein d'une équipe qui fait de la médiation sociale et sanitaire auprès des familles roms dans les bidonvilles. Et elle va s'articuler donc autour de séquences d'observation directes au guichet des inscriptions scolaires. Et aussi, en fait, mon approche, elle est à la fois, j'ai des observations au guichet des inscriptions scolaires. Et j'ai aussi en fait des observations pendant les réunions, notamment où on va essayer de négocier les règles qui sont fixées par les municipalités. Donc ça permet en fait de donner à voir les interactions des acteurs qui coproduisent les règles et les contraintes avec justement toute une dimension de contraintes organisationnelles liées aux administrations. Donc première partie, voilà, première séquence d'observation. Donc moi je fais de l'ethnographie, donc je vais vous donner à voir vraiment des séquences d'observation. Première séquence, donc au guichet des inscriptions scolaires. Alors, juste un point de contexte, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au moment de l'inscription scolaire, les discussions entre bénévoles et guichetiers par rapport aux pièces à fournir au moment de l'inscription, en fait, elles portent régulièrement, en fait, ainsi revient toujours, c'est la question de justifier de sa résidence dans la commune. Hein, donc ça, c'est ce qui pose problème en général pour l'inscription. Alors, je précise qu'une circulaire, normalement, impose aux mairies de fournir une domiciliation administrative aux personnes n'ayant pas d'adresse. Mais il y a très peu de mairies qui jouent le jeu. Et celles qui le font, en fait, celles qui fournissent une domiciliation administrative, elles ont souvent des délais de traitement très longs. Hein, c'est ce qui va être pointé là dans mon extrait. Et justement, bah, pour pallier à ce problème, l'association dans laquelle je travaillais produisait des attestations de présence pour certifier en fait que les familles résident bien dans la ville. Et du coup, l'interaction que je vais vous décrire porte justement sur cette négociation autour des pièces à fournir. Donc ça se passe au guichet des inscriptions scolaires, donc on est fin septembre. J'accompagne une jeune mère du bidonville à la mairie pour inscrire ses enfants à l'école. La guichetière nous indique les pièces à fournir. La mère du bidonville présente les cartes d'identité, le justificatif de domicile et le carnet de vaccination. La guichetière regarde les documents et, montrant l'attestation de présence de l'association, elle nous demande « Madame est hébergée, est-ce qu'elle vit chez quelqu'un? Est-ce qu'elle vit en squat ?» Et donc la médiatrice répond « Madame habite dans une petite maison en bois avec son mari et ses enfants dans un bidonville. » Ensuite, la guichetière, là, on ne va pas pouvoir faire l'inscription maintenant. Il s'agit d'un cas particulier qui doit être traité par le service juridique chargé de l'inscription des enfants sans domicile. Donc, face aux manifestations d'impatience de la médiatrice qui a déjà essuyé plusieurs refus de scolarisation depuis la rentrée, hein, on est fin septembre et c'est pas la première fois qu'on essaye d'inscrire ses enfants à l'école, la guichetière, en fait, va appeler sa responsable, donc la responsable du service enseignement. Donc celle-ci intervient et nous dit « Donc nous, on a besoin d'un formulaire de domiciliation administrative délivré par le Centre communal d'action sociale. » La médiatrice, montrant l'attestation de résidence fournie par l'association, « Mais ce document atteste que les familles résident bien sur la commune. Vous pouvez venir avec moi pour voir où elles habitent. Si vous voulez, je peux vous montrer des photos de leur maison. » La responsable de l'enseignement « Moi, il me faut un formulaire de domiciliation administrative. » La médiatrice, oui, on va le faire aussi, mais le délai d'attente, c'est 3 mois, c'est du temps que les enfants pourraient passer à l'école. La responsable du service enseignement, j'entends bien, mais on fait patienter d'autres familles. La médiatrice, mais le droit à l'école et le code de l'éducation, on n'a pas le droit de refuser l'école à un enfant en raison de son lieu de vie. La responsable du service enseignement, le droit à l'école, c'est si vous pouvez prouver votre domicile. La famille doit pouvoir recevoir son courrier. Et après, on doit trouver une école dans le secteur où vous aurez de la place. Voilà, j'arrête là sur cette interaction. Donc là, si on s'arrête un petit peu sur cet extrait. Donc d'un côté, la médiatrice défend la reconnaissance du bidonville comme un espace habité, hein, dont la matérialité peut être attestée. Elle propose de montrer des photos. Et elle pointe la distinction entre le lieu de résidence effectif des familles et l'adresse administrative de la mairie. De son côté, la responsable des inscriptions demande une attestation de domiciliation reconnue par son administration et insiste sur la nécessité d'avoir une adresse valide pour envoyer le courrier et pour aussi envoyer les factures de cantine, hein, accessoirement. Voilà. Donc ce sur quoi je voulais insister, c'est que cette séquence montre un traitement discriminatoire des enfants des bidonvilles qui sont ici caractérisés par la mairie comme des enfants sans domicile, et classés dans la même catégorie en fait que les personnes hébergées ou vivant en squat. Donc cette forme de discrimination en lien avec le lieu de résidence, elle fait l'objet d'une spécification juridique reconnue dans le code pénal, hein, en raison du lieu de résidence. Et par ailleurs, si on tire un petit peu la définition de la discrimination, on peut aussi considérer que le traitement des enfants des bidonvilles est une discrimination indirecte en lien avec leur appartenance ethnique supposée. Hein, ici, la catégorisation ethnique n'apparaît pas dans les motifs invoqués par les agents municipaux pour refuser l'inscription des enfants. Enfin, ça peut apparaître par ailleurs dans d'autres mairies, hein, mais ce n'est pas le cas ici. Mais de fait, la difficulté de produire un justificatif de domicile reconnu par la mairie a pour effet de produire un traitement discriminatoire à l'encontre des enfants des bidonvilles qui sont par ailleurs en majorité des enfants roms. Donc la consigne appliquée à tous les usagers de la nécessité d'avoir une adresse, hein, va dans les faits engendrer une pratique discriminatoire à l'égard d'un groupe en particulier. Je vais couper cette partie-là. Donc face à ce traitement discriminatoire, les associations vont mobiliser le droit, donc là le code de l'éducation, hein, comme l'a mentionné la bénévole, et aussi la menace de saisie du défenseur des droits. Et ils vont ensuite s'engager dans des négociations pour tenter de modifier les règles édictées par les municipalités. Hein, donc j'ai aussi voilà, des éléments sur les réunions avec les responsables d'enseignement. Donc là, je passe cette partie-là parce que je vais me concentrer plus sur la partie de l'expérience des enfants. Hein, mais juste, voilà, en un mot, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que ce traitement discriminatoire donc au guichet des inscriptions scolaires, il est... il s'inscrit aussi dans un espèce de d'enchevêtrement de responsabilités et de compétences autour de la gestion municipale qui fait que il y a un délai de traitement qui va être très long, hein, et qui est pointé en fait par les acteurs associatifs comme du temps qui aurait pu être passé sur les bancs de l'école pour les enfants. On va mettre plusieurs mois en fait avec tous ces obstacles pour inscrire les enfants à l'école. Voilà, donc je vais me concentrer dans le temps qui me reste sur l'expérience du racisme à l'école vécue donc par les enfants des bidonvilles, donc deuxième partie. Donc là en fait, je vais partir en fait de mes séquences d'observation donc directement dans les baraques, hein, sur les lieux de vie des familles, et notamment en fait c'est des observations qui sont tirées des séquences de soutien scolaire avec les enfants et des interactions avec leurs parents. Donc, dans leur formulation des discriminations à l'école, les enfants rapportent des témoignages de racisme ordinaire dans leur relation avec les autres élèves. Donc, certains enfants subissent des moqueries à propos de leurs vêtements et des insultes en lien avec leur origine ou l'activité supposée de leurs parents, je vais y revenir. Certains enfants rapportent également que des camarades ne veulent pas leur donner la main, refusent de s'asseoir à côté d'eux ou de jouer avec eux. Et on peut noter, voilà, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a un effet d'entraînement en fait entre les enfants d'un même bidonville dans la formulation du rapport à l'école et dans les réactions adoptées. C'est-à-dire que les enfants qui rapportent une expérience négative, en lien souvent avec une scolarité récente et irrégulière, vont parfois inciter les autres enfants à demander à leurs parents à ne plus retourner à l'école. Hein, par exemple, voilà, je me souviens une expérience d'une petite fille qui s'était mise à pleurer à la récréation le premier jour d'école parce qu'elle s'était faite insulter par les autres enfants, et ses petits voisins du bidonville avaient surenchéri en disant qu'eux aussi ils s'étaient fait taper et qu'ils ne voulaient plus jamais retourner à l'école. Hein, donc il y a une espèce d'effet d'entraînement. Alors là, dans la séquence d'observation que je vous propose de décrire, en fait, j'ai choisi justement de décrire l'expérience d'un enfant qui a une bonne expérience de l'école, hein, qui la fréquente régulièrement et qui est fier justement de parler français, de montrer ses cahiers, de faire ses devoirs, etc. Donc c'est un enfant que j'ai suivi depuis le CP. Là, dans la séquence, il est un peu plus âgé, il est en CE1. Donc je vous lis la séquence. Donc alors que je discute, je vais essayer de parler, c'est que je voudrais tout dire et j'ai tendance à accélérer le débit. Donc je vous lis la séquence. Alors que je discute avec sa grand-mère sur le canapé, un garçon de 8 ans avec qui je fais du soutien scolaire entre dans la baraque. Je lui demande, donc c'est la période de rentrée, hein, c'est au mois de septembre, je lui demande comment ça se passe dans sa nouvelle école et comment s'appelle sa maîtresse. Il me répond avec enthousiasme que tout se passe bien, que sa maîtresse est gentille. Puis il sort un sac à dos dessous le canapé et ouvre un cahier à la page de la poésie qu'il doit apprendre. Il me la lit sur un ton joyeux et je le complimente sur ses progrès en lecture. Il me dit ensuite qu'il a des devoirs à faire. Donc sur son cahier de texte, il est écrit qu'il doit recopier les chiffres en lettres jusqu'à 20. Il s'assoit à côté de moi sur le canapé et il commence à écrire les chiffres. Donc je lui dicte les chiffres en vérifiant ce qu'il écrit. Je répète les chiffres plusieurs fois pour les apprendre à la grand-mère qui me les répète en roumain. La grand-mère apprend le français en même temps. Lorsqu'il a terminé, je vérifie son cahier de texte et je vois qu'il a encore une leçon de géométrie, mais il n'a pas très envie de la faire. Il dit que c'est pas grave, qu'il veut pas la faire, etc. Et je le reprends plusieurs fois car je trouve en fait qu'il dit des gros mots. En fait, c'est un enfant que je fréquente depuis plus d'un an, donc je trouve que voilà, là il dit des gros mots, je le reprends plusieurs fois. Et ensuite, il m'explique qu'à l'école, maintenant, il parle comme ça, car il y a des enfants qui l'embêtent et qui l'insultent. Il me dit, je le cite, « À l'école, il me traite de sale roumain, gitan, ta mère, elle fait les poubelles. Moi, je leur dis, si tu redis encore ça, t'es mort. Moi, je veux pas qu'ils insultent ma mère ou ma famille. » Et donc, la grand-mère, qui a compris de quoi il parle, me dit en roumain que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de noirs dans son école, en affichant un air préoccupé. Donc dans cette séquence, en fait, là, l'enfant fréquente régulièrement l'école, il a un rapport vraiment positif à l'expérience scolaire et aux apprentissages, mais tout de même, il rapporte des moqueries et des insultes. Et donc, il va valoriser, en fait, donc comme lui, il est contraint, finalement, lui ne peut pas dire à ses parents « je ne veux plus aller à l'école », etc., comme l'ont fait les autres, là, qui se sont fait taper. Il est contraint de rester à l'école, hein, malgré les moqueries et les coups, et donc il va choisir de réagir vivement en adoptant la même attitude que les autres, en mobilisant les insultes et les coups, et en intériorisant d'une certaine manière les codes de la violence à l'école. Et juste si je peux pointer, puisqu'on est, on a beaucoup discuté, et ça fait écho aussi à ce que disait Philomena Essay tout à l'heure, sur la question de la catégorisation produite par les autres élèves. Ici, en fait, cette catégorisation, elle associe plusieurs critères d'altérité attribués aux enfants donc perçus comme gitans ou roumains ou roms, donc qui mêlent à la fois la nationalité, l'appartenance ethnique supposée et l'activité attribuée aux parents, à la mère ici, hein, avec la mendicité, les poubelles. Et donc, comme le fait remarquer une enseignante, les élèves tendent à reproduire les préjugés de leurs parents, ce qui laisse entendre que ces témoignages de racisme à l'école peuvent être perçus comme une transposition des représentations associées aux familles roms vivant en bidonville. Alors je précise ici que justement la confusion qui est véhiculée dans le discours commun, politique, médiatique, qui est souvent faite entre roms et bidonville, hein, il convient justement de la déconstruire et de dissocier l'appartenance ethnique et le lieu d'habitation. Puisque ici, de fait, ce sont des enfants roms qui habitent des bidonvilles, mais la majorité des roms en France ne vivent pas en bidonville, et à l'inverse, tous les habitants des bidonvilles ne sont pas roms. Juste sur la réaction de la grand-mère, en fait, je voulais pointer aussi un élément de contexte, c'est que face à cette stigmatisation donc, de son petit-fils, la grand-mère, elle va, elle, témoigner de son inquiétude concernant la présence d'un grand nombre d'enfants noirs, c'est comme ça qu'elle l'a formulé en roumain, dans l'école, et elle va formuler une espèce d'inversion du stigmate, on pourrait dire. Alors je précise que cette remarque de la grand-mère, elle fait implicitement référence à des tensions qui ont cours entre les habitants du bidonville et les habitants en fait, de la cité voisine, hein, qui est de l'autre côté de la route. Donc il y a des tensions aussi entre les jeunes et même entre les adultes dans le quartier. Ma dernière partie, il me reste peu de temps. Je vais conclure rapidement en fait en pointant que ces moqueries en fait associées à différents critères d'altérité, elles sont aussi relayées par les parents et notamment en fait lorsqu'ils pointent leurs inquiétudes et leur précarité matérielle, notamment les moqueries portant sur les vêtements et plus généralement les attributs associés à la pauvreté et à la saleté sont relayées en fait par les parents qui témoignent de leurs difficultés financières pour acheter des vêtements, le matériel scolaire, etc. Voilà, donc j'ai pas le temps de beaucoup m'arrêter là-dessus. Les parents aussi témoignent de leurs difficultés de communication avec l'école, hein, du fait de la langue, du fait aussi de leur mauvaise expérience en fait avec l'école. Voilà, et un mot pour conclure. Donc moi, en fait, pour conclure, je voudrais insister sur l'apport de l'ethnographie, justement, de l'enquête ethnographique pour décrire les discriminations, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler à d'autres occasions dans le colloque. Là, par exemple, ce que je voulais pointer, c'est que s'engager comme bénévole pour faire du soutien scolaire avec les enfants des bidonvilles et accompagner les familles au guichet des services municipaux permet d'expérimenter en situation le parcours d'accès à la scolarisation. Hein, l'engagement ethnographique est conçu ici à la fois comme une implication physique et sensible de l'ethnographe dans l'activité observée et également comme une visée politique de produire un savoir mobilisable dans le but d'améliorer la situation des personnes. Hein, sur ma première partie, par exemple, la contestation du traitement discriminatoire au guichet des inscriptions scolaires peut être mise à profit par d'autres acteurs associatifs et mutualisée en vue de faciliter les démarches pour d'autres familles. Et sur ma deuxième partie, hein, le récit des expériences de racisme ordinaire à l'école peut servir de support pratique à une réflexion plus large sur les modalités de résolution des discriminations à mettre en œuvre par les acteurs éducatifs, hein, comme ça a déjà été proposé par ma collègue dans la première intervention. Et donc mobiliser, alors si j'insiste maintenant pour terminer sur les enfants, mobiliser la démarche ethnographique pour étudier les interactions entre élèves et les assignations identitaires produites à l'école permet de donner du crédit aux pratiques et à la parole des enfants, tout en se ménageant une interprétation fine et complexe, justement en essayant de montrer les différents critères d'altérité, hein, une interprétation fine et complexe de la situation. Et donc l'idée de cette communication, c'est aussi d'ouvrir la voie à une ethnographie de l'expérience des discriminations formulées par les enfants eux-mêmes et qui pourrait notamment être enrichie par une observation en situation des interactions entre élèves à l'intérieur de l'école. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et...
Alors, le temps nous étant déjà compté... tout début de colloque, n'est-ce pas? Je suppose que mon rôle va être de limiter au maximum les prises de parole. Alors, et les interventions, je vais toutefois m'attribuer 2-3 minutes, si vous me le permettez, pour relever 2-3 éléments qui permettraient peut-être de lancer la discussion plus générale. On dispose de 10 minutes, un quart d'heure? 10 minutes? Voilà, la chose étant dite. Alors, je vais vous remercier toutes les deux et vous dire d'emblée que si des fois il fallait, dès l'ouverture de ce colloque et des premières interventions, faire la démonstration qu'il est possible de recueillir des éléments qui établissent l'existence de rapports racialisés, de tous les éléments qui ont conduit à l'organisation et la tenue de ce colloque, eh bien, on voit bien, effectivement, du point de vue de la complémentarité des méthodes qui ont été présentées, à quel point est-ce qu'il est possible, sans aucune restriction, de faire la cartographie de ce qui est annoncé dès le titre de ce colloque. Alors je voulais tout de suite, d'ailleurs je pense que ce sont des arguments qu'on va pouvoir cumuler, je pense, au cours de ces 2 journées et demie, peut-être pour renommer cet amphithéâtre et en finir avec le nom de Buffon. Des fois il fallait, voilà, les arguments sont... de plus en plus, sont déjà en faveur d'en finir avec une certaine forme de scientificité de ce point de vue-là. Donc, je suis un peu radicale, mais n'est-ce pas, c'est pour réveiller les esprits. Alors, par ailleurs, ce que je voulais peut-être souligner, et qui me semble intéressant dans vos 2 interventions, c'est la distinction à opérer entre racisme, qui est quand même écrit en très gros sur le programme, on ne peut pas le rater, et discrimination, parce qu'il me semble que ce que vous décrivez et parfois ce que vous qualifiez de discrimination n'est pas forcément de l'ordre de la discrimination, mais plutôt du racisme. Et je pense, et c'est important de distinguer les deux, parce que sinon on ne sait pas comment agir contre ces phénomènes et comment les décrypter. Et il me semble que, par exemple, tout ce qui relève des interactions entre les enfants participe sans doute plus du racisme, parce que les enfants n'ont pas le pouvoir de discriminer. La discrimination renvoie... Les modalités de la discrimination renvoient à une position de pouvoir et à des rapports de pouvoir où il est possible de... on est en capacité, en quelque sorte, de soustraire un droit ou de dénier un droit à quelqu'un. C'est typiquement ce que vous décrivez dans la situation au guichet, et c'est aussi ce que vous décrivez dans certains aspects de votre... Donc je pense que, par exemple, par rapport à la discrimination qui est invoquée par les enfants, ils sont discriminés par d'autres élèves, je trouve qu'il y a une erreur sans doute... Alors, est-ce que c'est leur langage? Est-ce que c'est une interprétation? Ça me semble important, effectivement, pour parvenir à mettre en évidence ce à quoi s'adossent les pratiques discriminatoires et l'expression du racisme, c'est-à-dire un système, des structures qui autorisent les unes et les autres et les rendre dissibles et praticables. Donc, là-dessus, j'aurais voulu peut-être souligner ce point. Et puis, il y a un autre aspect qui me semble renvoyer aussi à vos 2 communications. Vous parlez d'une médiatrice, et en fait, je pense que, surtout du point de vue ethnographique, ça serait intéressant de savoir qui est cette médiatrice, en fait. C'est vous. Et alors, en fait, c'est intéressant que vous soyez situé par rapport à cela, c'est-à-dire parce que vous dites la médiatrice, et en déréalisant cette position-là, en fait, vous nous privez peut-être d'une compréhension supplémentaire. Donc, c'est aussi la question de ce que vous évoquez à la fin de votre intervention sur qui organise les groupes de dialogue, par exemple, parce qu'en général, c'est par les premiers concernés que ça doit se faire.
Sinon, on risque fort de retomber dans des logiques de surplomb, d'injonction. Alors, d'un côté, on est assigné à une identité disqualifiée et stigmatisante, et de l'autre, il faut qu'on en sorte. Donc, il faut, en fait, toutes ces modalités-là, et on le voit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde scolaire et dans le monde universitaire, avec beaucoup de bonne volonté, mais qui, en général, tombent à plat, parce que les personnes qui sont en but à ces pratiques-là et à ces propos-là, sont les premières, ça a été très bien rappelé d'ailleurs par Philomena Essed, hein, doivent pouvoir en quelque sorte se saisir de ces questions-là. Si ce n'est pas elles qui le font, tout ce qui en résultera ne pourra pas être un facteur de véritable transformation, il me semble. Donc je m'en tiens là pour les remarques. Et puis je voulais juste vous signaler que issue de, ça m'a un peu écorché les oreilles, parce que je pense qu'il y a d'autres manières de dire les choses. Issue de, ça participe du répertoire de la discrimination et du racisme. C'est une modalité d'expression de la discrimination. Dès que vous êtes identifié comme issu de, vous êtes un objet idéal, désigné du racisme, des discriminations et de toutes les formes intersectionnelles de privation ou de déni de droit. Donc, il me semble que cette commodité de langage est éminemment problématique. Je vous le signale en toute amitié, mais je pense qu'il est temps d'en finir avec les issus de, n'est-ce pas, qui sont les premiers objets. Juste précisément de ce que nous cherchons à décrypter et à analyser au cours de ces différentes journées. La parole est à la salle.
Allô ?
Ici, le rang. Par ici, le micro va vous arriver par là.
J'ai une bonne voix, mais bon. Alors, mes commentaires et questions étaient pour Madame Denis Nagdar. Je trouve ça très intéressant. Alors, un peu dans la foulée de ce que vient de dire madame, effectivement, je me suis questionnée sur l'emploi du terme natif, parce que je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire que ceux que vous avez nommés d'ascendance maghrébine, il n'y en a aucun qui sont nés en France? Parce que sinon, natif, vous avez la moitié de natif, alors j'emploierai pas de natif. Nous, dans notre jargon, on dit troisième génération ou plus, versus première, deuxième, ou ce qu'on veut, mais parce qu'effectivement, est-ce que vous avez des natifs? Est-ce que vous avez des natifs dans vos ascendances maghrébines? Je suppose que oui, alors peut-être vous pourriez me répondre. Ensuite, nous, au Canada, normalement, les élèves se référeraient rapidement au fait d'aller à la direction dans le cas d'une discrimination par les enseignants. Je ne l'ai pas vu mentionner, alors je vous posais la question. Et vous avez aussi dit qu'il n'y avait pas votre mot majoritaire n'avait pas rapporté de discrimination. Ça m'a beaucoup étonnée parce qu'encore une fois, au secondaire, nous, l'essentiel de la discrimination, c'est l'orientation sexuelle et c'est l'apparence physique, le fait d'être gros en particulier. Alors, aucun de vos majoritaires n'ont spontanément parlé de ces choses-là. Et la dernière chose qui fait un peu écho à cette notion de discrimination, je me suis demandé, dans vos questions, vous posiez la question « As-tu été traité différemment ?» Mais est-ce que vous précisiez sans motif légitime? Parce qu'on sait que traité différemment, c'est aussi la réponse positive à la discrimination systémique. Être traité de la même façon, c'est aussi de la discrimination, comme madame l'a montré. Donc, il y a deux types de discrimination. Il y a la directe, qui est d'être traité de manière différente, sans motif légitime. Et il y a l'indirecte, qui demande au contraire d'être traité différemment. Et donc, je me suis demandé si les enfants, des fois, disent « j'ai été traité différemment », ben oui, peut-être qu'on en a profité, c'est l'Aïd, et on a dit « bon, ben, célébrons aujourd'hui, on est content de savoir que les jeunes musulmans célèbrent une fête, c'est être traité différemment, mais ce n'est pas de la discrimination en ce moment-là ». Alors, est-ce que les élèves font cette distinction-là, et est-ce que ça ne pourrait pas expliquer, s'ils ne la font pas, le fait que vous avez beaucoup d'élèves qui disent « j'ai été traité différemment », mais qui ne se voient pas discriminés, et d'autres qui ont été discriminés, bon, il n'y a pas de relation entre discrimination et traitement différencié. Peut-être que les élèves sont déjà rendus à un niveau supérieur, je ne sais pas. Ou alors c'est de l'ambiguïté conceptuelle, c'est ça, je ne sais pas.
On va prendre une autre question, et puis les intervenantes pourront répondre aux questions posées. Voilà, il y en a une. Bonjour. Il y a une jeune femme qui...
Excusez-moi.
Je pense que dans le temps qui nous est imparti, on ne va pas pouvoir prendre plus de deux questions.
J'irai parler avec madame.
Merci beaucoup.
C'est plutôt un témoignage, remarque, en lien avec la présentation de Céline Vénia. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette enquête. C'était pour ajouter à cela aussi la discrimination des élèves nouvellement arrivés en France. Moi, je témoigne en tant qu'enseignante de français langue seconde en collège. Et j'ai connu ce problème avec des élèves qui arrivaient en cours d'année. En compte-gouttes, donc ce qui pose aussi des sérieux problèmes pédagogiques, et qui nous disait être arrivé en France depuis 6 mois. Et je crois qu'il y a quand même une discrimination sous couvert de passivité, en fait. La grande passivité et l'absence de moyens alloués pour permettre une scolarisation digne pour ces jeunes participe à pour moi, à une sorte de racisme systémique. Parce que du coup, on se cache derrière des arguments qui ne sont pas officiellement racistes. C'est pas de ma faute, c'est l'administration, ça prend 3 mois. Et puis aussi, au sein des discours enseignants, de la même chose. Non, mais là, on a déjà 8 élèves roms, c'est plus possible. Là, on n'y arrive plus. Et là, il y a ce discours-là qui se banalise derrière des alibis administratifs, pédagogiques, qui posent problème et qui banalisent finalement une sorte de système raciste. Voilà.
Bien. Je vous redonne la parole. Dans le même ordre que tout à l'heure, si vous pouvez.
Bien sûr. Non, le micro fonctionne encore. Du coup, je vais répondre à vos différentes questions. En ce qui concerne l'emploi du terme natif, vous avez raison. Effectivement, je n'aurais pas dû l'employer, mais en même temps, c'est un terme que l'on trouve encore dans la littérature actuelle, mais qui ne justifie en rien, bien évidemment, ce que ça signifie. Alors, est-ce qu'il y a des natifs ? Du coup, je ne vais pas pouvoir répondre à la question dans le sens où je l'avais employé pour désigner ceux qui n'avaient pas d'ascendance migratoire. Donc dans ces cas-là, effectivement, du côté de ceux qui ont l'ascendance, on ne va pas pouvoir parler de natif, hein, si on le prend tel quel. Après, effectivement, les élèves que j'interrogeais, en tout cas ceux qui sont issus de l'immigration maghrébine, excusez-moi du coup si ça écorche vos oreilles, en tout cas c'est comme ça que j'en parle. C'est de cette façon dont j'en parle, et effectivement, et pour autant je ne discrimine personne, hein. Je tiens à le préciser, je le précise quand même. Mais ça montre aussi que les contours.
Il y en a qui sont liés en France.
Oui, oui, mais ça prouve aussi que les contours sont encore très difficiles à délimiter, hein, du fait d'employer une pluralité de mots pour désigner ces populations. Alors, on en a énormément. Je me suis contentée de quelques-uns, j'aurais pu encore en employer d'autres, mais je ne voulais pas non plus vous perdre. Mais effectivement, les élèves que j'ai interrogés sont nés en France. Voilà, exactement. Voilà, mais du coup, c'est pour ça que je n'ai pas employé ce terme, hein, quand j'ai fait ma présentation. Je l'ai mis dans le tableau, mais je ne l'ai pas employé à l'oral. Voilà. En ce qui concerne la direction, vous m'avez dit que les élèves au Canada, a priori, se tournaient vers la direction, c'est ça pour, voilà. Donc en France, non, effectivement, en tout cas dans le panel que j'ai interrogé, aucun des élèves n'a fait mention du conseiller principal d'éducation ou du directeur, du principal adjoint ou du proviseur. C'est exclusivement des enseignants. Que ce soit pour le primaire ou le secondaire. Et en ce qui concerne la population majoritaire, alors effectivement, il n'y a pas eu de retour de la part de ces élèves comme étant victimes, puisqu'en fait, on n'était pas dans le secondaire, mais dans l'élémentaire, dans le primaire. Je n'ai aucun élève... Voilà, c'est pour ça. Il n'y en a aucun de la population majoritaire qui était dans le secondaire, dans mon échantillon. Voilà. Donc, mais bien évidemment, en France, je pense qu'on retrouve... les mêmes résultats qu'au Canada, et notamment sur l'orientation sexuelle, par exemple. Donc j'ai une collègue à Nice qui travaille sur ces questions-là. Et pour donc votre dernière question, alors il me semble avoir déjà abordé plus ou moins dans mon PowerPoint, dans ma présentation, mais dites-moi si je me trompe, effectivement, c'est qu'il y a un problème de distinction de ce qu'est la discrimination de la part de ces élèves. Ils n'arrivent pas à la reconnaître ou à la nommer. Alors moi, je me suis simplement contentée de récupérer leurs paroles, mais oui, il y a inévitablement un problème par rapport à la discrimination. Est-ce que j'ai été traitée différemment ou non ? Et est-ce que ça relève d'une discrimination ou non ? Voilà, effectivement, il y a les deux choses à distinguer. Les élèves ne le distinguent pas forcément. Et effectivement, c'est un mot pour eux qui est un petit peu un mot fourre-tout, hein. On met tout et n'importe quoi à l'intérieur de ce mot discrimination. Mais il faudra du coup faire la distinction, pourquoi pas dans une autre étude, un petit peu plus approfondie. Ai-je répondu à vos questions ?
Je me demandais dans l'énoncé de votre question, par exemple, parce que vous avez des questions très détaillées.
Tout à fait.
Vous leur disiez, as-tu déjà été traité différemment ou as-tu déjà été traité différemment sans motif valable ? La définition de la discrimination directe, c'est d'être traité de façon différente sans motif valable.
Alors non, c'était vraiment traité différemment tout court. Et ensuite, on avait des questions qui arrivaient par rapport à tes origines, par rapport à... Voilà.
Alors que la définition de la discrimination à l'indirect, c'était d'être traité de manière équivalente, mais alors qu'autrement, on ne devrait pas l'être, parce que les situations de départ ne sont pas les mêmes.
Tout à fait.
Ce qui est ce que madame a illustré, elle, dans sa présentation.
Merci.
Alors, merci pour vos remarques et questions. Alors, pour répondre d'abord à Nassira, en fait, moi, je trouve que c'est important de pointer, en effet, la distinction discrimination et racisme. Moi, ça, j'ai réfléchi aussi, et notamment sur la question de la discrimination. Moi, je pense qu'on peut dépasser, en fait, dépasser une approche qu'on a un peu d'une vision binaire de la discrimination, où il y aurait un acteur qui est discriminé par un autre. Moi, j'essaye en fait d'appréhender la discrimination aussi comme une situation discriminatoire, un processus, une expérience. Et c'est en ce sens-là que peut-être, en fait, hein, je ne sais pas s'il faut le formuler comme ça, les enfants pourraient rapporter des expériences de discrimination au sens d'expérience d'une inégalité, de traitement, d'une injustice même. Hein, donc ça peut, on peut éventuellement élargir la discrimination. Enfin, c'est vrai, quand on fait de l'ethnographie, on a tendance à étirer un peu les concepts en fonction de ce qu'on trouve sur le terrain. Et notamment, c'est vrai aussi, justement, enfin, je l'ai un petit peu dit à la fin, mais rapidement, et ça tombe bien que vous interveniez sur cette question-là des enfants nouvellement arrivés. En fait, moi, ce que je trouverais intéressant, ce serait de... Donc moi, là, je travaille sur les enfants roms qui habitent dans les bidonvilles. Mais en effet, c'est dit. Donc, j'ai pointé hein, que les critères d'altérisation, de catégorisation, ils portent sur leur origine ethnique supposée, l'activité de leurs parents, etc. Voilà, ils sont associés. On associe en fait les enfants à la saleté, etc., la mendicité et tout ça. Mais il y a aussi la question de la langue qui est très présente. Il y a aussi la question de la non-maîtrise de la langue hein, qui est très présente, parce que voilà, certains de ces enfants, la plupart, quand ils commencent l'école, ils sont dans des classes pour les enfants qui ne parlent pas français. J'ai plus en tête forcément tous les sigles, comme ça change tout le temps. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la langue, il y a aussi l'apparence physique. Donc par exemple, ça peut être les vêtements. Donc ce que je veux dire, c'est que si on cherche à rapporter ou à décrire l'expérience discriminatoire des enfants dans leur rapport à l'école et dans les interactions entre les élèves, c'est important en fait d'élargir et d'avoir en tête que c'est une espèce de y a une diversité des critères en fait qui s'entretiennent les uns les autres, je pense. Donc là, voilà, la non-maîtrise de la langue, l'apparence physique. Le fait aussi d'arriver en cours, comme vous le disiez très bien, alors c'est vrai que c'est bien d'avoir le regard d'un enseignant, d'une enseignante, c'est que voilà, quand on arrive en cours d'année, on n'a pas le rythme, les rituels, toute la ritualisation de l'expérience scolaire. Donc en effet, c'est plus difficile, et c'est aussi pour ça que du côté des associations, on pointe ce problème-là d'avoir des délais d'inscription très très longs qui font que les enfants, s'ils arrivent en février ou en mars, évidemment, ils vont devoir aussi rattraper non seulement la maîtrise de la langue, mais aussi toutes les procédés de ritualisation, de rythme hein, dans l'expérience des séquences scolaires. Donc voilà, je pense que c'est important en fait de continuer à discuter sur cette expérience du racisme ou de la discrimination et sur la diversité des critères d'altérisation qui sont assignés aux enfants, qu'ils soient roms ou d'autres origines. Voilà, merci pour vos remarques.
Merci à vous.